Bonsoir, en novembre, je vous avais parlé d'un bouquin très sympathique. C'était « Le vin, c'est pas sorcier » d'Ophélie Neyman chez Marabout. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière une revue que je trouve tout simplement magnifique. Ça s'appelle 12°5. C'est un projet développé par ceux qui font également 180 degrés, qui est une revue, une autre revue très très belle aussi, consacrée à la gastronomie. D'abord, c'est un très bel objet. C'est une direction artistique très qualitative, des photos superbes, le papier, les textes, vraiment, ça se lit comme un roman. D'ailleurs, c'est distribué en librairie. Ça coûte un peu d'argent, mais vraiment, le produit, je crois que ça coûte 20 euros, mais le produit est vraiment d'une qualité étonnante. Et puis, il y a de la matière. Il m'arrive de lire aussi, évidemment, les magazines consacrés au vin, la RVF, bien sûr, mais aussi Terre de Vin, par exemple. C'est des bons magazines, mais on prendra le temps, d'ailleurs, dans un de ces jours, de faire un point sur la presse spécialisée, le papier, évidemment, web également, consacré au sujet du vin. Mais 12°5, d'emblée, j'ai envie de le classer à part. Je pense sincèrement que ça peut intéresser des gens qui ne boivent pas de vin, sont simplement curieux de découverte. En fait, pour le dire simplement, on vous parle de vin comme d'un phénomène culturel. On a droit à des portraits de vignerons, de vigneronnes. Dans le dernier numéro, un dossier sur les métiers de la tonnellerie, qui est un domaine d'excellence français, s'il vous plaît. On a également tout un dossier sur le Bourgogne aligoté en Bourgogne, et des choses passionnantes, à mon avis, à la fois pour des gens très pointus et aussi pour des novices. Alors voilà, bravo à eux qui ont développé cette nouvelle proposition, à qui on souhaite une longue vie et qui est, je pense, l'illustration vraiment de ce nouveau statut qu'a pris le vin dans l'imaginaire collectif et dont on parlait dans un précédent numéro de La Terre à Boire. Cette idée que le vin, c'est avant tout de la culture, des hommes et des femmes, des histoires à raconter. On va pas se comparer, parce que vraiment, notre travail d'amateur n'est en rien comparable à la qualité de ce qui est proposé dans 12°5. Mais cette idée, c'est bien celle que nous défendons ici aussi. Et ce genre de revue, bah, c'est juste une incroyable inspiration. Alors, bravo. Ce 12e épisode s'intitule « Un Picard, sinon bien, sinon rien ». Bienvenue dans La Terre à Boire. Et nous sommes au Wine Therapy à Paris, dans le 9e, toujours pour nous promener sur la route des champagnes. Toujours avec des chroniqueurs, cette fois je vais les présenter avant l'invité, c'est Philippe Viette à ma gauche, c'est Patrice Defay à ma droite, c'est Bertrand du grand podcast La Grande Bouffe, La Grosse Bouffe,
La Grosse Bouffe,
pardon,
merci.
Qui Salut. Était déjà là l'épisode précédent, et dans cette nouvelle formule de La Terre à Boire, on a aussi un invité à chaque fois différent, et ce soir c'est Axel Picard. Axel, bonsoir.
Bonsoir.
Axel, tu t'occupes de la maison Picard et Boyer, qui est une maison de champagne.
Une maison de champagne qui a été créée en 93, qui a une vingtaine d'années.
Bon, il faut juste s'approcher un peu du micro.
Okay, voilà, parfait. Voilà.
On peut faire des gestes, je peux aussi dire approche-toi du micro.
qui a une vingtaine d'années, nous sommes basés à Reims. Une grosse partie des caves est à Reims, une autre partie est à Épernay. On a 5 hectares de vignes, principalement dans la vallée de la Marne. Vallée de la Marne, ça part de la petite commune d'Épernay jusqu'à Château-Thierry.
Alors voilà. Je dis tout de suite une chose, c'est que le Picard et Boyer, c'est le champagne qui est servi ici au Wine Therapy, qui est à la carte. Je crois qu'il en a un deuxième. Voilà. Il a ce champagne ici. Si vous venez dans ce bar à vin, commander un champagne, vous avez ce vin-là, qui est un champagne de vigneron.
Exactement. Voilà, on produit nos propres vignes et ce champagne-là est issu de nos propres vignes.
Voilà. Vous n'achetez pas à côté.
Pour cette cuvée-là, non.
D'accord. Voilà.
Cette cuvée-là, non, parce qu'on a vraiment voulu mettre dans l'esprit de famille le terroir de la vallée de la Marne.
Ok. Ce qui est intéressant, justement, alors on va parler de terroir, je pense. Ce qui est intéressant dans ce vin, parmi les différents vins qu'on a dégustés, je rappelle, on a commencé par un 100% Pinot Blanc, un truc un peu original de la maison Fleury. On a continué avec un Blanc de Noir, toujours de la maison Fleury. Parce que voilà, Morgane Fleury était notre invitée, elle est venue avec ses vins. On a continué avec un millésimé de la maison Baudry qui nous a bien plu. C'était un mélange de Chardonnay et de Pinot Noir. Oui, c'est ça.
Oui, c'est
et là,
ça,
enfin, on va parler d'un cépage qu'on n'a pas encore goûté, qui est le Pinot Meunier.
Qui est vraiment le troisième cépage en champagne. On parle toujours du chardonnay, qui est le roi des cépages blancs qui poussent partout dans le monde et aussi en champagne. Le pinot noir et son cousin germain, on l'appelle comme ça en champagne, qui est le pinot meunier, qui est beaucoup plus fruité, qui est très bon jeune.
C'est un cépage blanc ou noir ?
C'est un cépage noir.
Voilà. D'accord.
C'est un cépage noir. Il y a deux cépages noirs en champagne, le pinot noir et le pinot meunier.
Voilà. Qu'est-ce qu'il apporte, le Pinot Meunier
Bah, je veux dire, moi je suis pas vigneron en Champagne, hein, mais en tout cas, je crois savoir que le Pinot Meunier, il apporte la rondeur, il apporte le fruité, il apporte de la jeunesse, un côté un peu exubérant. Et là où le Chardonnay va apporter parfois du fruit, parfois de la minéralité, et le Pinot Noir plus de la structure, de la puissance et de la vinosité. Donc toujours le côté gourmand en fait qu'apporte le Meunier, c'est
ouais.
ça
ouais, 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 ça apporte le gourmand, le fruit, les fleurs aussi, exactement. Mm-hmm. Donc c'est vraiment c'est un cépage qu'on rajoute dans les assemblages pour vraiment donner ce côté fruité. Parce que les deux autres sont vraiment le Chardonnay, la finesse, et le noir, le Pinot Noir, la structure même du vin.
Et qui sont toujours réputés être un peu les deux cépages les plus nobles de la Champagne. Et c'est vrai que le Meunier, on en parle moins souvent. Et c'est bien aussi de le mettre à l'honneur de temps en temps, parce que c'est un cépage vraiment très intéressant.
Dans cette cuvée qu'on goûte là, qui est donc la cuvée...
Esprit de famille.
Esprit de famille, voilà. Bah, tiens, ça va nous faire une belle transition, on va parler de famille. Le Pinot Meunier est majoritaire d'ailleurs, hein, c'est 70%.
70% de Meunier et 30% de Noir. De Chardonnay, pardon.
De Chardonnay.
Voilà.
Boum, voilà. Y a
Vendange,
quelqu'un qui s'y connaît.
Vendange 2012. Alors il n'a pas été revendiqué en millésime parce que je suis pas très revendication millésime, parce que je trouve que voilà, on le met un peu à toutes les sauces, et je revendique vraiment en millésime quand je sais que l'année est exceptionnelle, voilà. Mais sinon tous mes champagnes, moi, sont des
d'une
champagnes
seule
d'une seule année. Donc là on est sur du 2012.
D'accord. Donc c'est vraiment pour marquer le coup. Donc quand tu fais un millésimé, c'est parce
c'est vraiment pour dire celui-là.
C'est que t'es vraiment très très content.
Voilà, là je suis très content.
Ça veut dire que tu t'interdis de faire des assemblages en mélangeant plusieurs années, d'utiliser de la réserve et tout ça.
Pour l'instant, non, mais ça va venir. Voilà, c'est parce que c'est vrai que depuis que j'ai repris en 2009, on a eu des années qui nous ont permis de faire des champagnes mono-année. Voilà.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un millésimé qui dit pas son nom, en fait.
Exactement. On regarde ça comme ça.
Donc, on est sur la même année que Baudry, en fait.
Oui, c'est ça. 2012, qui était donc, j'en conclus, quand même une bonne année. Peut-être pas assez bonne pour que toi, tu la revendiques sur la bouteille.
Non, parce qu'on a eu de la chance. Voilà, 2012, c'était une année vraiment, vraiment top. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu un hiver très froid. Après, on a eu de la pluie et après du soleil. Et ça, c'est vraiment ce que la vigne veut, quoi. Alors que 2017, c'était l'inverse qu'on a eu là. On a eu
un hiver doux,
on a eu du soleil, puis après énormément de pluie, et on a eu des raisins qui ont pourri sur pied. C'était vraiment une très mauvaise année pour toute la France, je pense. Pas qu'en Champagne, mais la France.
Il n'y aura pas de millésime 2017.
Il n'y aura pas de millésime 2017.
2015, qui est globalement une bonne année un peu partout, c'est aussi une bonne année en Champagne.
Très très bonne année. Moi, j'ai dégusté là, c'est vraiment bon. Moi, franchement, c'est les.
Il aura le droit d'avoir le millésime.
Pour moi, du 2012-2015, c'est les années qui sont vraiment très 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 belles.
Parle-nous de la maison Picard et Boyer, du coup, c'est quoi l'histoire?
Alors, Picard et Boyer, l'histoire, c'est mon père Antoine Picard, qui était courtier en vin de Champagne. Et avec son ami Francis Boyer, ils se sont dit, tiens, on a un petit peu de vigne, tous les deux, pourquoi ne pas créer notre propre maison de Champagne? Et donc, ils se sont mis ensemble, ils ont loué une cave à deux, et puis ils ont...
Commencé à faire leur vin,
donc en 93, et puis voilà, ça a vécu comme ça. Et à son décès, moi j'ai repris, au décès de mon père, j'ai repris la maison avec Francis. Et ça continue.
Il y avait déjà le savoir-faire de la vinification dans la famille.
Il y avait déjà, oui. Il y avait déjà, voilà. Bon, on est une famille de chefs de cave dans des maisons de champagne depuis un bon bout de temps, depuis avant la guerre de 14.
D'accord. Donc les grandes maisons.
Des grandes maisons. Ça a commencé avec le champagne couvert qui n'existe plus. Après, c'est passé chez Krug, après chez Moum, chez Mouette et Chandon. Donc voilà, ça. On est du champagne et on aime ça.
5 hectares de vigne, c'est ça, hein, c'est ce que tu
c'est
as dit.
C'est 5 hectares de vigne, 5 hectares de vigne qui sont en fait situés à Verneuil, Vendières et Châtillon-sur-Marne, principalement. Voilà.
On est sur des villages quoi, Grand Cru, Premier Cru ou...
On est sur des crus dits périphériques. Ils appellent ça comme ça les.
D'accord, ok. Voilà. Les seconds crus.
Les seconds crus, exactement. En gros, en Champagne, il y a une échelle de crus. On est, et donc nous, ce qui va de 80 à 100. Et donc Verneuil, et on doit être à 80, 85, 87, quelque chose comme ça. Et les grands crus sont à 100% et les premiers crus sont à 97%.
100% par rapport au prix de référence du kilo de raisin qui est établi chaque année.
Ouais, voilà. Bon, c'est une échelle des crus qui a été créée il y a très longtemps. Donc c'est vrai que maintenant elle veut être mise en question, mais
c'est comme le
ils veulent pas y toucher. Quoi.
C'est comme le classement de 865 de Bordeaux. L'échelle est complètement bousculée, mais on veut pas la changer. Quoi.
Ouais, ouais. Mais bon.
Les cinquièmes crus, linge-bage, etc., qui sont au niveau de premier voire deuxième cru.
Bon, c'est pareil. Ils la changeront jamais.
Ils la changeront jamais. Et puis c'est vrai.
Ils brûler les doigts avec Saint-Émilion, ils ne recommenceront pas.
Hein. On est parti sur Bordeaux là.
Pardon.
Ouais. Allez-y. C'est intéressant.
Non, c'est pas le sujet.
On le goûte.
Alors ce vin.
On s'est dit qu'on allait un peu déguster là quand même.
Donc de 2012, qui est une année sympa parce que c'est une grande fraîcheur. C'est des vins qui se maintiennent vraiment bien. Le meunier, là, on le sent bien. On sent bien ce côté vraiment fruité du vin. Mais c'est un champagne voilà, qui doit pas être laissé vieillir en cave, parce que le meunier a une courbe de vie en fait qui est inversement au chardonnay. Le chardonnay jeune, il est pas très bon. Enfin, je veux pas dire ça aux gens qui ont dit chardonnay, mais je veux dire qu'il est meilleur vieux, alors que le pinot meunier est meilleur jeune. Et c'est vrai que ça fait une courbe de vie
de la jeunesse.
Exactement. Et c'est pour ça que les assemblages, quand on fait des assemblages chardonnay pinot meunier, on sait que le meunier va vieillir en descendant, alors que le chardonnay va vieillir en montant.
Donc ça fait une sorte de passage de relais au niveau des arômes et de ce qu'expriment les vins.
Et une question peut-être un peu con, mais est-ce que ça existe les 100% meuniers ?
Oui, ça existe. Oui. On en faisait beaucoup avant.
Oui.
Quand le meunier était le vilain petit canard de la Champagne, on voulait pas trop en parler parce que il était pas considéré comme bon. On n'en faisait plus du tout. On le mettait que dans les assemblages de brut, en gros, et de BSA surtout. Brut. Maintenant, on revient.
Brut
maintenant,
sans année, on l'a déjà dit. Non millésimé quoi.
Maintenant, on revient à vouloir redonner tout son caractère et au final, le meunier est quand même bon.
On est là pour le constater.
Et sur ce vin, sur ce champagne-là, on est à quel niveau de dosage ? Parce qu'on est en brut, mais comme la plage des bruts est super large.
Le brut commence à 6. Moi, je suis à 7 là. Donc, je suis vraiment au tout début.
D'accord.
Ouais. Je suis pas un grand.
On est un brut brut.
T'es pas un fan du bot du dosage.
Je suis jeune et je sais pas. Les jeunes préfèrent les extra bruts maintenant. Et c'est vrai que moi, j'aime bien et je le vois dans la commercialisation. On me demande maintenant de plus en plus d'extra brut, de brut très peu dosé.
C'est vraiment. Est-ce que c'est une mode, comme le disait Morgan Fleury, ou est-ce que c'est une tendance de fond j'ai l'impression que c'est profond quand même.
C'est une évolution des consommations.
Des goûts et des saveurs.
Fin 19e, on dosait à 100-150 grammes par litre.
C'était la liqueur.
Là, on est à quelques grammes. C'est juste une évolution de fond.
Il y a 20 ans, on voulait du demi-sec, donc c'est vraiment des champagnes très dosés. On arrive à 25 grammes.
On les buvait en dessert aussi.
Et on les buvait en dessert.
Les demi-secs, oui.
Ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui.
Non, maintenant, en dessert, on va plutôt boire un aîné extra brut avec des desserts qui sont sucrés. Donc le manque de sucre de l'extra brut va être.
Plutôt que d'en rajouter, de rajouter du sucre sur du sucre.
Voilà, pour être le contre-accord. C'est vrai que maintenant, on arrive dans une époque où on bannit le sucre aussi. Il y a aussi ça, je pense, qu'on est dans une génération où on ne veut pas forcément... Ouais,
c'est la même mouvance que le sauterne de foie gras qui est has-been. Hein, voilà. Plutôt champagne foie gras, d'ailleurs.
Bah, c'est pas mal non plus. Hein, ouais.
Champagne foie gras, avec ce pinot meunier, là, ça marcherait bien. Hein. Non
bah ouais, parce qu'en plus, il y a un côté très fruité quand même. On n'a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'au nez, on a quand même les fruits rouges, on a les petites groseilles, on a la fraise fraîche. Et là, pour le coup, avec les foie gras, c'est pas déconnant. Hein.
Ouais.
Je pense que ça se tente. Hein.
Ça peut être ça peut être tenté.
Et vous êtes, si je peux me permettre, vous êtes à quel rendement ? Parce qu'on disait qu'en moyenne, en Champagne, on était sur 72 hectos à l'hectare.
Alors en Champagne, on est le seul vignoble où on parle en kilos.
D'accord.
Alors après,
histoire de brouiller les pistes.
Il faudra une petite calculette pour que je vous le dise. Non, mais en gros, en Champagne, on va dire qu'on va être entre 9500 et 11000 kilos par hectare. Voilà. Et je pense qu'on va être à peu près De mémoire, je crois que c'était 70 hectos par hectare. Mmh. Donc, qui est énorme par rapport aux Bourgognes ou choses comme ça, qui eux sont souvent à 35-40 et sont plutôt.
Et encore, en Bourgogne, ils sont plutôt gâtés. Mais...
Et encore.
Si on descend plus bas, il y a des rendements plus faibles parce qu'une terre beaucoup plus pauvre et un climat plus austère. Quoi.
Et donc, on a énormément de chance en Champagne d'avoir rendements aussi hauts.
Alors, est-ce que dans
l'appellation, on appelle ça d'ailleurs.
Dans un autre mouvement, il y a le mouvement vers moins de sucre. Est-ce qu'il y a aussi le mouvement vers des plus bas rendements, du coup des choses qui sont peut-être plus concentrées en goût, des arômes plus forts. Enfin, je sais que par exemple, on passe en bio, on fait baisser les rendements.
Oui, si on passe en bio.
Comme mon sentiment, c'est qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus du vin. C'était déjà du vin, mais on rajoute moins de choses, on rajoute pas de sucre, on fait des années millésimées, on parle de champagne de vigneron. Est-ce qu'il y a aussi cette tendance à se dire, bon, ben, c'est bien les rendements, mais en fait, c'est surtout la qualité qui compte, et donc on accepte de faire baisser un petit peu la production.
En fait, c'est le rendement en champagne qu'on appelle l'appellation. C'est acté tous les ans par le CIVC, qui est une institution qui régit Comité international des vins de champagne, où il y a deux présidents, le président des vignerons en Champagne et le président des grosses maisons de Champagne. Et donc, les deux se mettent à une table et on dit, ben voilà, combien tu veux, toi combien tu veux. Et au final, ils essayent de se mettre, un peu en...
Ils sortent pas tant qu'ils ont pas, ils sont pas mis d'accord.
Exactement.
Est-ce qu'ils font sortir une fumée blanche de...
Ça, je sais pas.
C'est non,
de la mousse blanche qui sort.
On n'est pas à Châteauneuf.
Je pense que la Champagne a vu que il faut pas forcément vendre beaucoup trop de bouteilles, donc on va être maintenant dans des appellations qui vont être un peu plus petites. Donc on va plutôt être dans les alentours de 10 000 que dans l'entour de 11 000 comme on était il y a peut-être 10 ans. On était plutôt dans les 11 000, 11 500. Maintenant, si on est à 10 000 kilos par hectare, c'est très bien. On va produire peu, mais bon.
Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu pratiques la vendange en verre?
Alors, ouais. Ça m'arrive.
Qu'est-ce que c'est? Alors, donc que ça
verre, qu'est-ce que c'est? C'est un geste d'un vigneron, c'est-à-dire quand on voit que la vigne va trop produire de raisins, il coupe des grappes à l'avance avant qu'elles mûrissent pour que la vigne en fait puisse concentrer tous les arômes, fournir tous ses efforts dans les grappes qui vont rester. D'accord. Et donc c'est un bon moyen justement de concentrer les arômes et de produire moins mais mieux.
Voilà. Alors moi je le fais sur les jeunes vignes, parce que les vignes qui sont jeunes, elles produisent énormément. Si on ne fait rien, ils vont produire jusqu'à 15 voire 20 000 si on est vraiment voilà, si... Mais j'ai énormément de vieilles vignes et là ça se fait automatiquement. Voilà, moi avec mes vieilles vignes j'ai 10 000 kilos et je peux enlever quelques grappes, ça sert à rien.
Parce que naturellement la vieille vigne
produit moins. Une vigne qui est vieille, bah, t'es une vieille dame donc elle produit moins. Alors, en gros, c'est un peu le...
Quel âge elles ont, les plus vieilles?
Moi, j'ai une vigne de 1939.
D'accord,
voilà.
80...
1939, alors elle ne donne plus rien. Alors, je me dis, est-ce que je l'arrache? Mais non, je fais 4000 kilos dedans, donc je fais deux fois moins. Mais ça donne... d'ailleurs, je pense qu'il y en a d'ailleurs là-dedans. Ça donne un meunier, en plus, qui est vachement bon. Mais j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, c'est
il n'y a, pas de mention vieille vigne sur les champagnes comme on peut avoir dans pas mal de régions.
Je sais pas s'il y a.
Jamais vu. Après, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je sais pas.
Il y en a, mais comme c'est une terre d'assemblage au départ, ouais. Il y en a peut-être dedans, mais c'est pas ça qu'on met en avant, parce que c'était plutôt l'assemblage. Après, si on continue à aller vers le terroir, il y a maintenant d'ailleurs des champagnes qui viennent d'une seule parcelle, ce qui est quand même le summum du côté orientation viticole et vin du champagne, quoi. Et quelques vins qui sont faits sur une seule parcelle.
On peut citer la Côte des Enfants, Bollinger,
voilà. Il y a quelques. Il y a quelques...
Claude Duménil,
que vous avez peut-être Claude Duménil, bien sûr,
de chez Krog.
Alors qu'ils sont plutôt dans le luxe en termes de positionnement prix. On est au-delà de 100 euros, je pense, sur tout ce qu'on a dit là.
Mais moi, j'ai des assez grosses parcelles. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai des grosses parcelles. Et donc, c'est vrai que je fais du parcellaire. Alors que je vais pressurer vraiment que cette parcelle-là, puis après j'assemble mes différentes parcelles. Je fais pas qu'une bouteille, hein, mais j'assemble parcelle par parcelle, et je vois vraiment la différence à 200 mètres près. On peut voir une nette différence par rapport à l'inclinaison, par rapport à la terre, par rapport à tout ça. Et c'est assez intéressant. Chose qu'on ne faisait jamais, Champagne, on ne faisait pas du tout du parcellaire il y a 15 ans. Je pense que c'est ma génération à moi, de trentenaires, on va essayer de faire autre chose.
Voilà. Bousculer les codes.
Ouais, on se fait souvent un petit peu engueuler parce que.
Comme à chaque.
Ils vont pas faire comme ça, on a jamais fait comme ça.
Oui, non, mais
c'était mieux avant.
Il y a une question aussi sur la maturité des raisins. Moi, j'ai parfois entendu que la Champagne, c'est quand même aussi un endroit où on cueille la vigne quand elle n'est pas mûre. Ça fait des choses assez acides. Après, alors avant, on compensait ça avec du sucre et que la tendance aujourd'hui, c'est de cueillir plus à maturité.
Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on cueillait plutôt en verre parce qu'on n'arrivait pas à gérer la pourriture. On avait des problèmes de pourriture. Maintenant qu'on est un peu plus à l'aise sur tout ça, on essaye de produire un peu plus mûr et d'avoir des raisins plus mûrs.
Ça a une conséquence ça, sur le vin, de cueillir plus à maturité et d'avoir...
Bien sûr. C'est-à-dire que si tu cueilles pas assez mûr, ton vin, quel qu'il soit, hein, champagne ou pas, va être très très acide. Si tu cueilles à la juste maturité, mais encore faut-il qu'elle soit juste, que ce soit pas trop tard, tu peux atteindre un équilibre. Si tu attends trop, d'une, tu prends le risque que ton raisin soit pourri et que là ta récolte est foutue, et si jamais c'est trop mûr, tu peux avoir un vin qui est lourd après et qui est pas du tout agréable et qui est pas du tout plaisant à boire. Donc c'est bien d'ailleurs que tu parles de la vendange, parce que il y a quand même une particularité en Champagne qui est assez méconnue, c'est que la vendange en Champagne, ça se fait à la main. C'est obligatoirement à la main. Ça fait partie du cahier des charges de l'AOC Champagne et les machines sont interdites. Donc, rappelez-vous de ça, juste de cette contrainte-là, quand vous payez votre bouteille de champagne, dites-vous bien que par essence, ça sera forcément plus cher que le reste, parce que déjà, il y a cette contrainte. Alors, c'est pas la seule AOC.
C'est pas le seul endroit où on
paye à la main. C'est pas la seule, mais je veux dire, comparé à d'autres pétillants, d'une, il y a la méthode, deux, il y a le terroir, et trois, il y a des contraintes. Que ce soit de vieillissement, que ce soit de densité de plantation, que ce soit de vendange, qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Donc, bien garder ça en tête.
Il y a du coup un équilibrage, je dirais, entre la champagne d'avant, tout ce qui était assemblé, etc. Le travail était plutôt en aval, c'est-à-dire après le raisin. Là, on remonte, on va dire, en termes d'équilibrage, si j'ai bien compris, plus du le travail du terroir, la maturité du raisin, etc. Donc, ça s'équilibre un peu plus. En amont, on va dire que, entre guillemets, qu'en aval, même si le travail...
Après aussi, il y a la conservation aussi du patrimoine géologique et du terroir champagne, qui est un peu menacé avec les niveaux de résidus chimiques liés à l'usage de pesticides et d'herbicides dans les nappes phréatiques champenoises, et qui ont été une source de... d'inquiétude, hein, puisque on est à des niveaux quand même de résidus chimiques qui sont assez élevés, et donc d'où une prise de conscience de pas mal de maisons de champagne,
faire attention
à la terre, aussi des vignerons comme toi qui cherchent, ou comme Morgane, à respecter le terroir, les sols, à produire avec des rendements raisonnés, mais toujours plus en qualité, et puis avec une utilisation limitée d'intrants, pour éviter de gaspiller un peu le patrimoine, et puis surtout que les gens doivent prendre conscience que c'est quelque chose qui peut
abîmer le terroir sur le long terme.
Il faut redonner cette terre qu'on nous a donnée, il faut la redonner à nos enfants, et c'est vrai que... On a mis quand même pas mal de... Moi, quand je vois les... Enfin, quand je parle avec des vieux, entre guillemets, qui ont 60 ans, 70 ans...
J'ai eu peur.
Ils n'ont pas du tout le même raisonnement que nous en disant « Arrêtez ». Moi, quand je vois tout ce qu'ils mettaient dans les vignes, je me dis « Mais... »
Et encore aujourd'hui...
Et pourtant, je ne suis pas bio et je le fais pas, mais je trouve qu'on met... Encore actuellement.
Beaucoup trop de produits. La Champagne est en retard, on peut le dire quand même, sur la conversion en bio par rapport à d'autres régions. Hein. Chacune a sa phase, mais il y a moins de bio en Champagne qu'on peut en trouver dans d'autres régions, même s'il y a un grand mouvement. Alors bio au sens large, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le label, et puis il y a le fait, comme tu le dis, de mettre
de
ou pas.
Vraiment,
voilà, d'être une agriculture raisonnée, de ne pas ajouter d'intrants.
Je ne sais pas pourquoi on est en retard comme ça. Pourtant, la Champagne est. Voilà, considéré comme l'appellation, on va dire, la plus en avance sur énormément de choses. Mmh. Mais c'est vrai que sur le vignoble et la qualité du vignoble...
C'est ce qu'on disait un petit peu, je crois, à l'émission avec Morgan Fleury, c'est-à-dire que c'est un peu tiré par un modèle productiviste au départ. On n'arrive pas à alimenter le volume.
Il faut servir une demande qui
est de plus en plus
croissante,
de plus en plus forte, etc.
L'exportation.
Et je pense que la notion de terroir va être super importante maintenant, d'autant plus que vous êtes concurrencé, en tout cas sur les champagnes de bas niveau, par des créments bien sûr, mais aussi les Prosecco, et puis aussi les sparkling wine en Angleterre. Donc on va dire tout ce qui va être bas de gamme, ce qui fait encore une fois la typicité et la spécificité c'est française ou terroir, c'est de monter dans le haut de gamme. Donc je pense plus vous êtes... Aujourd'hui, il y a des Prosecco qui viennent attaquer les vins, les champagnes de premier niveau. L'Angleterre, Philippe pourra peut-être développer, mais qui a... Je crois que c'est 10% des coûts du marché de champagne en export.
Une bouteille sur 10 de champagne s'en va en Angleterre. Et actuellement, en Angleterre, on assiste à une inversion de tendance. C'est-à-dire que le champagne est concurrencé plutôt durement par justement le Prosecco.
Un vin pétillant italien.
Et dans les dernières années, en fait, les ventes de ce pétillant... ont explosé parce que déjà il y a eu un gros travail dans la qualité sur ces vins-là. Donc on a assisté en 2015 en fait à une inversion de courbe où les ventes de Prosecco ont surpassé les ventes de champagne en Angleterre. Et puis aussi il y a la concurrence des fameux British Sparklings. Les Anglais font très peu de différence en termes de qualité entre un champagne et puis un sparkling anglais. Pour eux, ça leur importe peu. Donc c'est quand même un fait assez marquant parce que l'Angleterre est quand même en termes d'exportation en fait le
marché numéro un après la France.
Ça force forcément les producteurs en Champagne à se remettre un peu en question sur leur modèle, sur la façon dont ils vendent et puis sur la façon aussi dont ils produisent.
C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit émerger de plus en plus des champagnes de vignerons, de terroirs, parce que la spécificité de la Champagne, c'est un terroir extraordinaire.
Absolument.
Pour revenir sur le bio, sur le fait que peut-être que la Champagne est un petit peu en retard, il y a aussi une contrainte climatique qui est relativement évidente. Le climat en Champagne... C'est comme, enfin, c'est pas de faire offense, hein, mon cher Axel,
mais non,
que de dire
qu'il
pleut
beaucoup, il fait froid, il y a pas toujours du soleil.
Je veux dire, le raisin pourrait quand même beaucoup plus facilement qu'en Provence. C'est quand même beaucoup plus facile de faire du bio en Provence ou dans le Roussillon que de faire ça en Champagne. Hein.
Moi, j'applaudis vraiment ceux qui font du bio en Champagne parce que c'est un boulot. Hein. Moi, je le vois, c'est un boulot.
Je rebondis sur la distribution. Toi, tu sais où sont vendus tes vins
Ah oui, parce que c'est moi qui le fais.
Voilà. Toi, tu vinifies, tu commercialises,
ça,
tu fais tout.
C'est ça, être vigneron. Voilà, c'est ça.
Tout faire, comme l'homme orchestre.
Il faut bien parler dans les caves, dans les cuves et chez le client.
En France, majoritairement, beaucoup d'exports.
Oui, je suis à 80% en France. Beaucoup chez les cavistes. Cavistes, bar à vin, fromagerie. Alors ça, c'est un truc.
Ah ouais.
Ben franchement, j'ai essayé les fromageries il y a 3 ans, mais c'est un truc. Ils me disent super du champagne, personne vient à nous voir. Alors moi je suis là, j'ai trouvé le truc.
Champagne pâte fleurie, magnifique. Avec un camembert, un brie.
C'est vrai, hein, parce que et c'est vrai que dans chez les personnes, le fromage c'est avec du vin rouge. Et c'est vrai
ça aussi, c'est en train de changer.
Et ça, c'est aussi un petit peu de changer aussi. Donc oui, beaucoup professionnels.
Si Laurent était là, il dirait. Métallique,
Ah oui, c'est vrai. On nous a fait un cours là-dessus, il y a longtemps.
Et je commence un peu l'export, mais c'est très long. En fait, pour commencer l'export, il faut au moins 3 ans entre le début de la prospection et la première vente. Donc, ça prend un peu de temps.
Avec des territoires en particulier
Côté Italie, beaucoup.
Italie.
Ah ouais.
C'est bien, on va concurrencer les Prosecco.
Ils nous envoient
leurs Prosecco, on va leur envoyer du champagne.
Non, Belgique.
On les aime,
parce que c'est aussi
un gros consommateur
de champagne. Allemagne.
Amateur de champagne, les Belges arrivent très très vite. Hein.
Et là, je commence l'Argentine et le Chili. Non.
D'accord.
Totalement différent avec un ami. Bon, c'est que j'ai un peu de chance, j'ai un ami qui est là-bas.
Du Nouveau Monde.
Et on va essayer, ça va être bien.
Merci Axel Picard d'être venu nous voir. On s'est bien fait plaisir, pour pas dire qu'on s'est régalé avec ce champagne. brut, esprit de famille de chez Picard et Boyer, qui est le champagne qu'on peut boire ici au Wine Therapy, servi par notre ami Laurent Delso. Merci pour ce petit tour, merci Bertrand, merci Patrice, merci Philippe. Je vais remercier aussi Olivier Duval qui nous fait la technique ce soir et tout le mois de décembre. Et c'est un plaisir d'avoir voilà, quelqu'un qui s'occupe de tout ça, qui pousse les boutons, qui nous fait un son super.
C'est la musique qui dit on est en retard, ouais, on est ça, en retard. C'est la fin. De manière subliminale c'est la fin, et élégante.
On l'entend, on l'entend dans le casque.
Arrêtez de vous resservir.
Alors là, les gars, on est juste avant Noël, donc on va souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Voilà, passez de belles fêtes de fin d'année, couvrez, inondez, arrosez bien les enfants et pas que les enfants de cadeaux. Faites-vous plaisir avec des bons vins, des bons champagnes, avec de la bonne bouffe. La grosse bouffe dont on parle dans le podcast de Bertrand, que je vous invite à aller écouter. Voilà, ben, on vous remercie. On va continuer. Il nous reste un petit passage, parce qu'il y a un vendredi, figurez-vous, entre nous et les jours de l'an. Et ben, on va continuer à parler de champagne. Hein, voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Dans la Terre à boire.